avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe.
Bonjour Pauline.
On parle rarement des élections législatives au Groenland, on parle encore plus rarement de l'économie groenlandaise, c'est ce qu'on va faire ce matin.
Oui,
Soyons curieux.
Le Groenland, un territoire immense, hein, on l'a vu, la plus grande île non continentale du monde, 2,2 millions de kilomètres carrés, ça fait 4 fois la France, mais plus de 80% de sa surface est constituée de glace, et c'est aussi l'un des endroits les moins densément peuplés de la planète, environ 57 000 habitants. 57 000 habitants, c'est moins que ce qu'il y aura ce soir au stade d'Anfield de Liverpool, où joue le Paris Saint-Germain. Vous imaginez, colonisé par le Danemark au 19e siècle, il a commencé à acquérir une certaine autonomie à partir de 1979, et surtout en 2009, après la promulgation d'une loi sur l'autonomie.
Alors aujourd'hui, il y a donc ces velléités d'indépendance qu'on évoquait à l'instant, mais de quoi vit le Groenland ? Est-ce que c'est un territoire riche ?
Alors c'est un territoire qui vit essentiellement aujourd'hui de la pêche et du tourisme. La pêche représente plus de 90% de ses exportations. Principalement, on exporte du flétan, mais aussi des crevettes ou bien des crabes des neiges qui sont très convoités. En réalité, une grande partie des ressources financières dépend des subventions du Danemark qui lui verse chaque année environ 600 millions d'euros, ce qui fait 20% de son PIB qui dépasse aujourd'hui ce PIB les 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros proportionnellement à la population, c'est beaucoup. Les habitants sont globalement 30% plus riches qu'ici en France. Mais il y a quand même une importante misère sociale. D'abord, 1% des habitants, c'est-à-dire environ 600 personnes, sont sans domicile fixe. Et sans domicile fixe, là où il fait moins 20 degrés, eh ben, c'est quelque chose. 20% vit en dessous du seuil de pauvreté. L'accès au logement est un défi avec des prix de l'immobilier qui ont doublé depuis 10 ans. Et puis, parmi cette misère sociale, il y a un alcoolisme important et surtout un taux de suicide. Plus de 80 suicides pour 100 000 habitants, c'est l'un des taux les plus élevés des pays développés. C'est 7 fois plus qu'en France. Autre sujet d'inquiétude, le déclin de la population, on l'a vu. Si la tendance se maintient, le territoire pourrait compter plus que 50 000 habitants d'ici 15 ans.
Vous n'avez pas évoqué les minéraux et les hydrocarbures. Je croyais que c'était ça qui intéressait Donald Trump.
Et vous avez raison, il y a un potentiel énorme, mais je dis bien potentiel parce que ce n'est pas encore une réalité. Depuis le 19e siècle, il y a eu des exploitations des sous-sols au Groenland avec des mines de charbon, d'or, d'uranium ou bien de zinc. On en voit ici certaines en archives. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'une mine qui est en exploitation. Une deuxième devrait ouvrir bientôt. Et on parle là de mines de pierres précieuses, pas encore de ces mines de terres rares qui pourraient un jour voir le jour. Pour le reste, il y a des projets, car avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces révèle de précieuses réserves de pétrole et de gaz d'abord, d'uranium aussi, de cuivre, de lithium, de cobalt et puis surtout de terres rares qui sont ces minéraux, ces minerais critiques si importants pour l'industrie de la défense mais aussi pour l'ensemble des appareils électroniques, hein, les voitures électriques, les téléphones notamment. Comme ici, on peut voir à Quanenfield, qui aurait donc en ses sous-sols ces terres rares. Au total, le Groenland aurait 25 des 34 minerais qualifiés de critiques par l'Union européenne, des réserves qui seraient estimées à plus de 36 millions de tonnes, ce qui en ferait l'un des pays les plus riches en la matière de la planète. Oui, mais aujourd'hui, seuls 1,5 million de tonnes sont a priori exploitables. L'exploitation, d'abord, elle coûte extrêmement cher parce qu'il y a peu d'infrastructures et que le territoire, eh bien, il est hostile, il fait froid. Et puis, il y a un manque de main-d'œuvre aussi. Là, on l'a vu, s'ajoute à cela l'opposition d'une partie de la population qui multiplie les recours en justice pour en interdire l'exploitation pour des raisons écologistes parce que l'exploration des sols est très polluante et ça entraîne souvent des maladies. Et selon la ministre des Finances, qui est également en charge des ressources minérales, eh bien, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. On va l'écouter.
Je pense qu'avant qu'on ait entre 2 et 5 mines en activité, on ne peut pas vraiment se considérer comme un territoire exportateur de minéraux. Alors je dirais que nous n'en sommes qu'à nos débuts en ce qui concerne l'exploitation minière.
Alors, ceci dit, tout cela, ça attise, on l'a vu, des convoitises. On a vu arriver dernièrement dans le pays divers hommes d'affaires, que ce soit d'Australie et des États-Unis, qui veulent sonder ces sous-sols et qui investissent plusieurs dizaines de millions d'euros déjà. Et ce potentiel, il attire évidemment aussi des grandes puissances, États-Unis en tête, qui pourraient trouver là un moyen de se rendre plus indépendant de la Chine, parce que vous voyez ici en chiffres que la production de terres rares, elle est à 2/3 assurée aujourd'hui par la Chine, et les Américains aimeraient bien changer ce pourcentage.
Merci beaucoup Christophe, c'était passionnant.